La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler du solfège. Aïe, 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 vous me direz le solfège, mais il y a les pour, puis il y a les très forts contre. Ben, on va vous parler du solfège dans le jazz.
En fait, moi, je trouve qu'ils ont tous raison et tous tort. Parce qu'il n'y a pas de principe. Je crois que les gens qui sont doués pour le solfège, eh bien, ils ont certaines facilités. Puis que ceux qui sont doués pour l'improvisation, ils en ont une autre. Et que certains ont les deux à la fois. Et que certains n'ont ni l'une ni l'autre. Et en fait, il y a, pour les rapports entre le solfège et le jazz, autant de cas d'espèce que de musiciens, pratiquement. Donc, nous ne déboucherons pas sur le conseil qui consisterait à vous dire « Jamais de solfège, je voulais faire du jazz » ou « Le jazz passe par le solfège ». Ce sont deux stupidités symétriques.
Par contre, c'est vrai qu'en jazz, c'est une musique où il y a beaucoup de gens qui jouent d'oreille, c'est-à-dire sans partition.
Énormément, puisque c'est une musique en majorité improvisée et que l'improvisation, par définition, elle n'est pas écrite avant qu'on la fasse.
Et puis à la base, il faut bien savoir que beaucoup des gens qui ont commencé il y a bien longtemps le jazz, c'était évidemment des gens qui n'avaient absolument pas les moyens de se payer un professeur de solfège.
Non, ils ignoraient totalement les choses et d'ailleurs, tels nos Auvergnats de la même époque, ils jouaient d'oreille. Et puis c'est tout. Une considération importante, l'improvisation ne définit pas le jazz. Le jazz est une musique essentiellement improvisée, mais c'est une certaine manière d'improviser. Et toute improvisation n'est pas nécessairement du jazz. Et encore faut-il parler de ce langage-là quand on improvise.
C'est pour ça qu'on va vous donner des exemples.
Vous allez entendre maintenant un morceau du grand orchestre de Count Basie. Et vous allez vous dire, mon Dieu, mais on ne peut pas jouer à 16 musiciens sans partition. Erreur. À cette époque-là, l'orchestre de Count Basie jouait la plupart de ses morceaux sans partition. Ils avaient des arrangements de tête, d'oreille et parfois même improvisés sur le tas. Ça a l'air extraordinaire, mais c'est des gens qui jouaient énormément, 8 ou 9 heures par jour ces gens. Donc ils avaient l'oreille très affûtée, la pratique très affûtée et ils étaient capables de faire ce genre de choses. Donc enregistrer sur le vif, pour vous prouver qu'on peut totalement jouer en grand orchestre les mains dans les poches et les yeux fermés, voici
John's Heidi.
L'idée de John. John s'est dédié à John Hammond, le célèbre promoteur, organisateur de concerts. Et l'endroit où ça se passe, c'est le Famous Door. C'était une boîte dans New York qui était tellement petite qu'on m'a raconté que l'orchestre tenait autant de place que les spectateurs, à peu près. Et les gens qui ont entendu ça à l'époque, qui nous avaient raconté ça, ils étaient naturellement au premier rang, puisque c'était en quelque sorte des invités d'honneur, et ils étaient absolument à 2 mètres du piano. Hein. Même pas, sans doute. John's Heidi.
Thank you.
Comme vous avez pu le remarquer, là, tout ce morceau tourne autour d'une figure rythmique. Et au fur et à mesure que ces gens-là le jouaient, ils y ont apporté des améliorations. Il l'a un peu mis en ordre. Et par exemple, c'est sans doute à ce moment-là qu'est arrivée l'idée de cette petite montée chromatique qu'on entend vers la fin du morceau.
Là, il y avait peu ou pas de partitions. Alors, quelquefois, on les utilise. C'est un peu comme un pense-bête pour se souvenir de la base, de quand ça s'arrête, quand ça commence, les choses qui sont au milieu, ça aide.
Oui, on est sur scène, là, puis de temps en temps, on jette un petit coup d'œil pour être sûr de ne pas se tromper, puis ça s'arrête là. La partition a surtout servi aux répétitions, avant.
Et il y a même des cas où, en spectacle, c'est interdit. Il y a des chefs d'orchestre qui estiment que quand on joue pour la danse, il faut regarder les danseurs.
Dans le big band de Louis Armstrong, par exemple, à l'époque où il avait un grand orchestre, eh bien, il interdisait les partitions à cause de ça. Eh bien, voici un morceau de ce grand orchestre de Louis Armstrong. C'est un morceau composé par Louis Armstrong. Je sais pas qui l'avait arrangé, d'ailleurs. Donc, appris par cœur assez rapidement et joué sans filet, donc, en public, plus tard.
Et je voulais préciser que Louis Armstrong a lui-même appris le solfège et l'écriture, les partitions, à l'âge de 20 ans.
Parce qu'à cet âge-là, il avait commencé à travailler sur les riverboats, dans un orchestre où ils étaient 12 ou 13, et où on jouait surtout des morceaux à la mode.
Et ces morceaux, ils étaient sur partition.
Et naturellement, dans cet orchestre-là, qui était celui de Fat Marable, sur ces magnifiques bateaux à roues à aube, ils étaient quand même assez nombreux, et il fallait quand même que chacun y mette du sien. C'est comme ça que le père Armstrong a appris à dire la musique, et je suis pas sûr que c'est devenu un grand champion en la matière, de toute façon. Voici donc une de ses compositions, parce qu'il pouvait composer quand même, hein, avec une bonne oreille. Swing That Music.
Heart gives a chill, I feel such a thrill, my feet won't keep still when they swing that music. Rhythm like that puts me in a trance, or you can't blame me for wanting to dance. From what I understand, it must be just grand to play in a band. When they swing that music, I'm just happy as can be when they swing that music for me. Thank you.
Cette affaire de Riverboat nous mène à une devinette. Sais-tu pourquoi, dans les orchestres des premiers temps, il y avait toujours un violon que personne n'entendait quand l'orchestre jouait? Et on voyait bouger son archet, mais on l'entendait pas. Mais il était toujours dans l'orchestre. Pourquoi?
Mais cette histoire est très vexante. On doit absolument entendre le violon, normalement.
Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais c'était comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que dans tous ces orchestres où les gens ne savaient pas du tout lire la musique, quand les morceaux à la mode arrivaient avec des partitions, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui sache la lire, et les violonistes le savaient.
Et oui, parce qu'ils avaient eu, eux, une formation classique.
T'as tout compris.
CQFD.
Nous voici maintenant chez Fletcher Anderson, et il y a 3 solistes improvisateurs dans le morceau qui vient. Un très jeune trompettiste qu'on entend au début et à la fin. Il est totalement dans la fougue de son âge, puisqu'il a 19 ans. Et là, il joue vraiment à coups de hache.
Et c'est Rex Stewart.
C'est Rex Stewart. Alors lui, par rapport au solfège, il le connaît un peu, pas plus que ça. Il se perfectionnera plus tard. Mais ce qu'il joue là n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'écrit. Le deuxième soliste, c'est un saxophoniste ténor.
Coleman Hawkins.
Il est au début de sa carrière, mais lui, il vient du violoncelle.
Oui, c'était un peu une affaire aussi sociale. Quand on venait d'une famille un peu bourgeoise, on commençait par le classique.
Piano, violon, violoncelle. Alors voilà. Soleil, ça veut dire la musique. Comme le chef de l'orchestre, Fletcher Anderson d'ailleurs. Et puis le troisième, comme on l'entend, c'est un trompettiste qui joue un magnifique solo. C'est un solo très célèbre, d'ailleurs.
Alors, lui, c'est un lamentable lecteur. Il le dit lui-même.
Ah oui, il a un système pour lire la musique qui est assez empirique. Quelquefois, je me suis demandé comment il pouvait faire avec ce système-là qui consistait à se repérer par rapport à une ligne. C'était assez approximatif, mais il avait une chance, c'est qu'à côté de lui dans l'orchestre, il y avait son grand frère, Russell Smith, qui lui était totalement incapable d'improviser, mais qui était un lecteur hors pair et qui tenait le rôle de premier trompette.
Et donc, dans les parties d'orchestre, il cale sa partie à lui par rapport à celle de son frère.
Pour la mise en place. Mais pour les notes, bah, il finit par les trouver quand même. Puis après, vous savez, dans un big band, croyez-moi, on en vient très vite à plus regarder les partitions. Ça s'appelle
The Stampede.
Et The Stampede, ça veut dire la débandade.
Ouh.
Et c'est pas du tout une débandade, au contraire, c'est presque au pas de charge.
musiciens français, donc là, eux, ils savent lire la musique ou pas ?
On trouve un petit peu le même phénomène. Il y en a qui savent très très bien, il y en a qui savent un peu, il y en a qui savent pas. De manière générale, ceux qui sont vraiment le dessus du panier, ils savent. Et même certains savent très très bien parce que d'abord c'est des bosseurs, ensuite certains sont passés par les conservatoires. Si je pense à une fille comme Aurélie Tropez à la clarinette, il est évident qu'elle lit la musique à 150 à l'heure.
Et effectivement, on peut apprendre l'instrument de façon classique, c'est souvent excellent. Et après, il faut savoir s'en évader.
Et puis il y a toute une population de musiciens semi-professionnels, qu'on appelle les amateurs, qui eux, à la limite, le solfège, ils s'en foutent complètement, puisque eux, ils jouent exclusivement d'oreille. Mais quand on fait un grand orchestre, en France, évidemment, en mélangeant toutes ces populations-là...
On retombe sur le problème, comment faire aller ensemble 18 musiciens ?
Eh bien, vous allez vous en rendre compte, on va refaire la même expérience que tout à l'heure avec Fletcher Anderson. Voici un morceau enregistré par un grand orchestre qui s'appelait le Jazz de Pique. Le premier soliste, c'est un trombone qui ne connaît absolument rien au solfège et qui pourtant tenait la place du premier trombone parce qu'il connaissait tout par cœur. Mais il connaissait rien du tout, hein. Il ne savait pas du tout lire la musique. Le deuxième soliste, c'est un saxo-ténor qui, lui, au contraire, était un bon lecteur et son improvisation, je peux en témoigner, était généralement toujours la même. Mais ce n'était plus une improvisation au sens strict du terme, c'était un discours convenu qu'il avait mis au point. Et puis le troisième soliste, il lit peu de choses, il lit peu de choses. Alors lui, il est du niveau pense-bête, tu vois. Il est exactement comme l'autre de tout à l'heure. Il écoute le premier trompette mettre en place le travail de section. Voilà, il s'y plie, il cale tout ça, et puis il lit un petit peu les notes, et puis voilà. Par contre, il s'est improvisé. Voilà, le jazz de pique. Ça s'est passé dans la cave du Hot Club de France, du temps où il existait, à Paris.
Et ça s'appelle Jazznocratie.
Voici maintenant le plus incroyable analphabète musical que nous ayons jamais rencontré.
Ah ben oui, on l'a bien bien connu puisqu'il faisait partie des Dumoustier Stompers. Il s'agissait de Henri Perrier dit Riton.
Le trombone.
Et alors là, il ne connaissait rien et il disait de sa voix « Oh, je me débrouille à l'oreille ».
Henri Perrier non seulement ne savait pas lire la musique, mais il ignorait totalement ce qu'est une grille d'harmonie. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui savent pas lire la musique et qui savent que le jazz fonctionne avec des grilles. Alors lui, il savait, mais il savait pas ce qu'il y avait dedans. Et il ne savait pas non plus que c'est qu'une tonalité. C'est-à-dire qu'il jouait dans tous les tons, parfaitement, sans savoir de quoi il s'agissait. Alors ça, c'est quand même un cas extrême.
Oui, je pense qu'il avait quand même une oreille exceptionnelle.
Tout à fait. Je dois dire que quand on accompagnait quelque chose sur scène avec Henri Perrier et qu'il fallait faire un petit riff improvisé en fond d'un autre soliste, on lui donnait le riff une fois et il enchaînait la deuxième voix tout de suite derrière. Ça s'est passé des centaines de fois sur des centaines de riffs. Il s'est jamais trompé. Il avait une oreille, comme tu dis, absolument extraordinaire. C'est ça aussi l'important. Hein. C'est d'abord une très bonne oreille. Alors là, le voilà avec la chanteuse de l'orchestre à l'époque, qui s'appelait Carole Lee, qui était américaine. Carole Lee connaissait la musique et avait un répertoire de plus de 400 morceaux. C'est vous dire que c'était quelqu'un qui était au courant. Eh bien, elle s'est très bien entendue avec cet analphabète incroyable. Et voici une de leurs œuvres communes, un blues de Bessie Smith, qui s'appelle
Gulf Coast Blues. Et ben voilà le résultat. Et finalement, beaucoup de gens nous ont demandé, parce qu'ils n'osaient pas trop le demander au trombone lui-même, mais comment il fait? Comment il se débrouille? Comment il apprend? Ça les surprenait énormément.
Comment il travaillait? C'est très simple. Il avait écouté énormément de disques. Il avait écouté les bons. Je trouve qu'actuellement, le grand défaut des jeunes musiciens, c'est d'écouter n'importe quoi. tellement ils sont enfouis, ensevelis sous la matière sonore qui arrive de toutes parts.
Et oui, il y a tellement de choix.
Riton, il avait fait son choix et il avait énormément écouté et il ne travaillait son trombone que sur disque. Et ça, c'est une méthode. Par exemple, toi qui enseignes le violon traditionnel d'oreille au Cédat de Saint-Flour, eh bien, je pense que tes petits élèves, tu leur expliques qu'il faut beaucoup écouter et beaucoup travailler sur la musique elle-même.
Oui, c'est ce qu'on fait, parce qu'effectivement, il y a une section nouvelle qui vient de se créer en musique traditionnelle, hein, parce que c'est pas de la musique classique. En musique traditionnelle, nos anciens travaillaient exactement de la même manière que Henri Perrier a travaillé pour du jazz. Nos anciens, ils travaillaient complètement d'oreille. Et nos jeunes musiciens qui viennent d'arriver là dans le système violon à l'oreille, il y a des enfants, il y a des adultes, tout le monde peut travailler de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on commence par écouter, apprendre par cœur, soit en chantant, soit simplement à l'oreille, on l'apprend par cœur. Et après, on se débrouille pour placer ses doigts d'une façon correcte, pour que ça ne fasse pas faux.
Mais ça, c'est spécifique au violon aussi.
Voilà.
C'est plus difficile que pour d'autres instruments. Mais de toute façon, ça consiste à écouter, au départ à imiter, et quand on a passé un certain niveau, à se servir de tout ce qu'on a engrangé pour improviser.
Et ça, on peut improviser en musique traditionnelle. Contrairement à ce que beaucoup croient, il faut commencer par savoir la base et après, on peut improviser.
Et pour en venir au jazz, c'est un des exemples où les musiciens, assez rapidement, sont capables d'improviser s'ils ont bien appris la langue en écoutant les bons disques. Voilà, bon, on le dira jamais assez. Et voici un autre exemple. Lui, il joue du saxophone soprano. Il était à nos côtés au Dumoutier Stompers, d'ailleurs. On l'a vu à Saint-Flour plusieurs fois. Il s'appelle Jean-Pierre Rougeron. Je suis tombé l'autre jour sur un texte qu'il a écrit pour son jazz club où il avouait ne pas avoir pratiqué le solfège, alors qu'il joue de la musique depuis plus de 50 ans. Et ça ne l'empêchait pas, ayant beaucoup écouté Sidney Bechet, d'être capable de jouer comme vous allez l'entendre. Le morceau s'appelle Indian Summer. Et à beaucoup de concerts, j'ai vu des gens pleurer pendant ce morceau.
Il est remarquable, hein, comme musicien.
Tout à l'heure, nous avons dit que le dessus du panier des musiciens français savaient parfaitement lire la musique, pour la plupart en tout cas, bien ou très bien.
Eh bien justement, on a un contre-exemple flagrant avec Daniel Luc.
Daniel Luc, c'est pour moi le meilleur jazzmen de sa génération, en France et même au-delà.
Et il est reconnu comme tel par les autres, ce qui veut dire à quel point il est remarquable.
Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. À telle enseigne d'ailleurs que Daniel Luc n'a pas d'orchestre. Il est invité partout depuis des dizaines d'années. Il est connu comme le loup blanc. Et c'est un grand improvisateur au saxophone, alto généralement, et également un chanteur de scat qui est très apprécié. Mais là, on va l'entendre au saxo alto dans ses œuvres.
Et vous allez voir la richesse de ses improvisations. Vous vous souvenez que le nom du morceau que vous venez d'écouter s'appelle Tiger Rag. Eh bien, on se demande bien qui fait le tigre.
Eh bien, dans cette affaire, le tigre était le fait de M. Raymond Fonseca, qui se servait en l'occurrence pour la partie de basse et pour faire le tigre, d'un trombonium euphonium.
Oui, ça ressemble un peu à un nom de médicament.
Eh bien, il ne l'avait pourtant pas acheté dans une pharmacie. Je ne sais pas d'où il sortait cet instrument étonnant. Et il faut dire d'ailleurs que Raymond Fonseca, lui, le solfège, il le connaissait à l'endroit, à l'envers, de haut en bas et de bas en haut. Et même en biais, c'est un peu comme s'il habitait dedans. Et à côté de ça, il savait très bien improviser. Donc, nous avions là un mariage entre celui qui savait tout du solfège et celui qui savait rien de la musique écrite. Et comme vous voyez, c'est une union parfaitement réussie.
Alors, il y a des gens qui ne lisent pas la musique et pour cause, ce sont les aveugles.
Ah, ça c'est certain. Il paraît qu'on peut la lire en braille, je veux bien, mais quand on lit la musique avec les doigts, on ne peut pas la jouer en même temps.
Bien sûr. Donc, de toute façon, ils sont obligés de la prendre par cœur. Mais il y a une chose qui est certaine, tout le monde le dit, c'est que dans leur malheur, les aveugles ont souvent une oreille exceptionnelle parce que elle supplie à beaucoup de choses.
Et nous allons vous passer trois exemples de ce genre de situation. Qu'ils aient connu le braille ou pas, nous semble un petit peu secondaire. De toute façon, c'était des gens exceptionnels. Le premier s'appelle Blind Blake.
Alors, blind, en anglais, ça veut dire aveugle, tout simplement.
Blind Blake s'appelait, paraît-il, de son vrai nom, Arthur Phelps. C'est un personnage très mystérieux, une sorte de sorcier de la guitare, un des premiers grands virtuoses sur cet instrument. Il se produisait dans les années 20 à Chicago et il jouait aussi du piano. Mais il a surtout enregistré à la guitare où il jouissait d'une très grosse réputation.
Eh bien, on va l'entendre dans Southern Rag.
Le rag du Sud, peut-être un petit coup de nostalgie. Allez savoir.
Cotton fields. We them people plant all their rice with sugar cane. And peas and so forth grew. Yeah, man, I want a match for me to light my pipe, yeah. Go on, old Geechee. I ain't studying about you, no, I know you had to study me now. When you get my rice, though, I bet you study me then. Bet you that. Let's meet me at the end of the row now. I show you how to pick this cotton. Either dig potato, either one. I strip more raw sugar cane than you strip in 10 years. Do the dance now, they call the Geechee dance. I'm gonna give you some music you call the Geechee music now. Get away from you, them. Cause I'm gonna grab them directly and gonna take them everywhere but loose. You better get that thing fixed just like this now, cause I'm gonna stop.
Finalement, c'est pas très étonnant que Blind Blake ait joué du piano aussi, parce qu'on se rend compte en l'écoutant que sa musique est très proche du ragtime, d'une certaine façon. D'ailleurs, son morceau s'appelle là « South on a Rag ».
Le suivant, Art Tatum, là, il a une véritable célébrité. Il est aveugle, lui aussi. Et alors, c'est un virtuose. Il n'y a pas d'autre mot. Virtuose aussi bien dans le doigté, la rapidité, que l'imagination, la création, la créativité.
On raconte que certaines personnes qui ne l'avaient jamais entendu et qui arrivaient là où il jouait pensaient qu'il y avait deux pianistes. C'est arrivé très souvent. Et on raconte aussi qu'un jour où Art Tatum est arrivé au Yacht Club, qui était là, le club où jouait Fats Waller, Fats Waller s'est arrêté de jouer et a dit « Mesdames et messieurs, Dieu est avec nous ce soir ».
Peste.
Moi, je pense qu'il avait raison. C'était un improvisateur absolument extraordinaire qui a eu une énorme influence sur le jazz. On peut dire que les deux musiciens qui ont eu le plus d'influence dans le jazz, c'est Louis Armstrong et Art Tatum. Le mieux, c'est de lui laisser la parole, le clavier. Voici un morceau que les pianistes de Harlem avaient adopté comme morceau de bravoure.
C'est un morceau extraordinairement célèbre. C'est un tube. Il s'agit de Tea for Two.
Morceau très intelligemment construit et qui a permis aux pianistes de multiplier les exploits.
On vient de parler de deux aveugles et musiciens merveilleux, célèbres, mais il y en a eu un qui a une célébrité mondialissime, et ben c'est notre ami Ray Charles.
Ray Charles est devenu aveugle quand il était enfant, donc il savait ce que c'est que de voir.
Il connaissait encore dans sa tête, disait-il, les couleurs.
Oui, et Ray Charles n'est pas seulement un chanteur, c'est aussi un pianiste, un organiste, c'est aussi un joueur d'échecs. C'est aussi un type qui est capable de conduire une voiture avec quelqu'un à côté.
Il a dit, Ray Charles, une chose très, très importante. Il a dit, je dois tout à ma mère, parce que lorsque je suis devenu aveugle, elle a dit, mon fils, je te traiterai comme quelqu'un qui voit. Alors au début, le petit pleurait, il trouvait que c'était très, très dur. Mais plus tard, il a dit, pour moi, ma mère m'a fait comprendre que rien n'était impossible.
Et c'est vrai qu'à Ray Charles, rien ne semblait impossible. Et le voici, avec son grand orchestre, arrivant en France. Je crois que c'est la première fois qu'il y venait, au festival d'Antibes-Juan-les-Pins. Ça devait être en 1961. Et là, le public le rappelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il se remet au piano. Il indique un petit riff du piano à ses musiciens, qui comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Et l'orchestre attaque un blues. Et puis après, le laisse improviser. Et puis après, il leur fait un petit signe et il termine le blues en orchestre. Voilà, je ne sais pas très bien quel est le titre de ce blues, appelons-le Festival Blues. Et nous allons terminer notre émission avec deux musiciens qui, eux, avaient l'œil vif et disponible. Le premier, c'est Errol Garner.
Alors lui, il ne connaît rien à la musique. Il a même une idée relativement vague des tonalités, parce qu'il peut prendre l'une, l'autre, comme ça. Et il faut que ses musiciens suivent. Il choisit de jouer en do, puis après, il joue en si bémol, et puis après...
Oui, ça dépend des soirs.
Alors là, les musiciens qui l'accompagnent sont sur le qui-vive, vous voyez.
Alors c'est pour ça que finalement, il y avait un modus vivendi entre Garner et son contrebassiste. C'était que l'introduction de Garner soit suffisamment longue pour que le contrebassiste puisse savoir en quel ton il allait démarrer. Alors, moyennant ça, les choses se passaient très bien, et même mieux que bien. Et Errol Garner, oui, d'abord, il n'a pas appris le piano comme tout le monde.
Oui, parce que lui, théoriquement, il n'avait pas droit d'apprendre le piano. Il n'y avait que le grand frère, parce qu'il était l'aîné. Alors, le petit Garner, second, il se glissait derrière la porte, il écoutait, et après, en cachette, il refaisait ce qu'il avait entendu.
C'est comme ça que c'est parti. C'est un très grand talent. Il a inventé un style de piano qui a beaucoup influencé après et qui était totalement nouveau. Le morceau s'appelle...
Time on my hands.
On ne saurait mieux dire. Thank you. Tout à l'heure, nous avons parlé des musiciens français actuels, mais en France, nous avons eu un artiste qui a dépassé tout le monde de très loin, qui était un véritable génie, qui était guitariste et qui s'appelait
Django Reinhardt.
Et Django Reinhardt ne savait pas lire la musique du tout, à tel point que quand il composait un morceau, il dictait la mélodie à quelqu'un qui prenait des notes, à tout point de vue.
Et si on rajoute qu'il lui manquait deux doigts, eh bien, ce qu'il faisait était une totale performance.
Ah, c'était phénoménal. C'est phénoménal. Il y a un seul film où on peut voir ça, d'ailleurs. Essayez de le trouver sur YouTube. Ça s'appelle « J'attendrai ». Et nous avons la chance d'avoir un récit sur le vif d'une séance d'enregistrement où Django Reinhardt, tout seul, a improvisé. Alors là, improvisé. Et nous avons la chance d'avoir la relation de tout ce qui s'est passé dans un des livres de souvenirs d'Hugues Panassier. Et voilà comment il le raconte.
La compagnie HMV de Londres avait demandé deux faces jouées par Django seul à la guitare. Django n'avait guère envie de se rendre à cette demande. Il n'avait jamais fait de disque semblable et ne savait trop quoi jouer. Finalement, Delaunay lui dit « Oh, tu n'as qu'à improviser quelque chose. Ce sera sûrement bien, va. » Django se décida brusquement et dit aux ingénieurs de se préparer. Il me pria de sortir ma montre et de lui faire signe lorsqu'on approcherait de la troisième minute d'enregistrement afin qu'il puisse prendre ses dispositions pour terminer l'interprétation en temps voulu.
Oui, parce qu'il faut dire qu'à l'époque du 78 tours, il y avait deux contraintes. La première, c'est qu'il ne faut pas dépasser 3 minutes 20. Et la deuxième, c'est que si on écoutait ce qu'on venait d'enregistrer pour voir à quoi ça ressemblait, c'était fichu. Il fallait le refaire, ne pas l'écouter et l'envoyer à la galvanoplastie tout de suite.
Et c'est ainsi que fut enregistré cet admirable solo intitulé à bon droit « Improvisation » qui s'évade des cadres de la musique de jazz pour rejoindre parfois la musique d'esprit gitan, andalou. Django, s'abandonnant complètement à l'inspiration du moment, se lança dans une suite de phrases d'harmonie plus belles les unes que les autres. Debout à deux pas de lui, je suivais attentivement sur ma montre l'évolution de l'aiguille des secondes. 15 ou 20 secondes avant les 3 minutes, je levais la main pour montrer à Django qu'il fallait terminer bientôt. Sans s'émouvoir, il continua son improvisation pendant quelques secondes et l'amena à une conclusion si logique qu'on eût juré que tout avait été savamment préparé. Tous les gens qui se trouvaient au studio jugèrent cette improvisation si parfaite qu'ils supplièrent Django de ne pas écouter cette cire, estimant qu'il ne ferait jamais aussi bien. Django se rendit à nos conseils. Ce petit chef-d'œuvre fut donc enregistré sans qu'on eût seulement fait une cire d'essai. Thank you. C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.